Je propose de lire ensemble un court passage dans le livre des Actes. Actes chapitre 7, verset 54. En entendant ces choses, ils frémissaient de rage dans leur cœur et ils grinçaient les dents contre lui. Mais lui, étant plein de l'Esprit Saint et ayant les yeux attachés sur le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Et criant à haute voix, ils bouchèrent leurs oreilles et d'un commun accord, se précipitèrent sur lui, et l'ayant poussé hors de la ville, ils le lapidaient. Et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et s'étant mis à genoux, il cria à haute voix, « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Et quand il lui dit cela, il s'endormit. Oui, jusqu'ici, il s'endormit. J'aimerais juste dire quelques mots sur cette question, sur ce point. Chrétien, voilà ton chef. Jésus ressuscité dans le ciel est monté, les saints l'ont vu. Cette histoire d'Étienne est très intéressante à cet égard. Parce que à cette occasion, il y a quelque chose de très extraordinaire qui se passe. Le ciel s'ouvre. C'est un sujet très important et très intéressant. D'ailleurs, si vous cherchez un peu dans la parole, quand est-ce que le ciel s'est ouvert? Et vous cherchez dans l'Ancien Testament et on ne trouve pas beaucoup. De temps en temps, il y avait du feu qui était venu du ciel. À une occasion, il y a une promesse que Dieu sait ouvrir les fenêtres du ciel pour donner la bénédiction. Et à une occasion, il y a un homme qui se moque de cette possibilité et il dit, mais assez de pain, ça vient d'où? Est-ce que Dieu va ouvrir des fenêtres dans le ciel? Mais ce qu'on voit jamais dans l'Ancien Testament, c'est que le ciel s'ouvre et on voit un homme dans le ciel. Alors, dans le Nouveau Testament, ça change. Et très tôt dans les Évangiles, il y a déjà une occasion où le ciel s'ouvre. Mais là, c'est parce qu'il y a un homme sur la terre avec lequel le ciel, dans lequel le ciel trouve tellement de plaisir que le ciel doit être ouvert pour prononcer le bon plaisir du Père sur cet homme. Vous voyez, je parle du baptême au Jourdain du Seigneur Jésus, et le ciel s'ouvre et on entend cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, dans lequel j'ai trouvé plaisir. » Mais ici, en acte 7, le ciel s'ouvre encore une fois, et cette fois-ci, c'est pour qu'un homme qui est sur la terre puisse regarder dans le ciel pour voir l'homme glorifié dans le ciel. Alors, je vais revenir sur cela tout de suite, mais juste pour terminer, il y a encore une occasion dans le Nouveau Testament où le ciel s'ouvre. Et là, c'est dans Apocalypse chapitre 19, « Et je vis le ciel ouvert. » Et là, il y a un qui sort du ciel, sur un cheval, il est suivi par des multitudes et il vient pour prendre possession de la terre qu'on lui avait refusée quand cet homme merveilleux était là pour la première fois en grâce. On lui a refusé la terre. Mais là, il revient et il la prend avec toute sa puissance et toute sa gloire. Et nous vivons, si on veut, entre ou dans cet intervalle entre, disons, Marc 1 et Apocalypse 19, entre le temps où le Seigneur était sur la terre et le ciel ouvert sur lui, et le temps où le ciel s'ouvre pour qu'il vienne pour régner sur la terre, nous sommes entre les deux. Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Entre les deux, il y a aussi le ciel ouvert, mais pour que nous regardions à partir de la terre, dans le ciel, pour voir le Seigneur Jésus. Alors, j'aimerais montrer deux choses. La première, c'est l'effet de cette perspective sur Étienne. Et la deuxième chose, c'est la question, mais nous, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde là-bas? Quand on prend cette perspective d'Étienne. Alors, c'est deux choses. Hein. Premièrement, regardons Étienne. Étienne avait donné un discours remarquable dans chapitre 7. Il avait raconté l'histoire du peuple Israël. Et à première vue, on se demande pourquoi il donne cette leçon d'histoire. Mais si on lit attentivement, on trouve que il raconte cette histoire pour montrer la culpabilité du peuple. Et juste avant le verset où on a commencé à lire, il dit, dans le verset 51, « Gens de col roide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. » C'est exactement ce qu'il a démontré à partir de leur histoire. Ils avaient résisté Dieu, résisté le Saint-Esprit. Lequel des prophètes et vos pères, lequel des prophètes vos pères n'ont pas persécuté? Il a du courage, hein. Il savait quelle multitude c'était devant lui. Mais il parle de cela ouvertement. Ils ont tué ceux qui ont prédit la venue du juste, lequel maintenant, vous avez livré et mis à mort. C'est vrai que le Seigneur s'est donné soi-même, il a laissé sa vie, mais quant à leur responsabilité, il l'avait mis à mort. Vous qui avez reçu la loi par disposition des anges et qui ne l'avez point gardée. Alors, on comprend bien que les Juifs n'étaient pas contents. C'était des paroles très, très claires. Alors, il y a l'effet dans le verset 54. Ils frémissaient de rage, grinçaient leurs dents. Alors, ils sont vraiment en pleine colère maintenant avec Étienne. Et qu'est-ce qui se passe? Comment réagit Étienne? On devrait attendre une panique complète. Je crois que même dans des situations bien moins dangereuses que celle-là, on a tendance à paniquer, non? Une fois, j'étais dans un taxi au Nigeria, et il y avait des brigands qui nous ont arrêtés. Alors, c'était rien contre ça, mais déjà, on commence à... Oui, la pression monte un peu. Et combien de fois des choses dans la vie quotidienne, quelque chose ne marche pas comme il fallait, un plan qui est détruit, et cela peut nous bouleverser. Peut-être une maladie, une difficulté imprévue. Et qu'est-ce qui se passe, hein? Souvent, je parle de moi-même aussi. on perd le calme. On est agité par les problèmes. Et Étienne, non. Il n'y a aucun signe que Étienne soit agité. Qu'est-ce qu'il dit? Étant plein de l'esprit, verset 55, ayant les yeux attachés sur le ciel, il vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Je suis convaincu que c'était ça le secret. C'est la source du calme d'Étienne. C'est la source de sa stabilité. Parce qu'il a le regard vers le ciel ouvert, il sait où se trouve son chef. Voilà ton chef, chrétien, hein, qui te dirige. Alors, Étienne regarde cela et il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Peut-être vous dites pourquoi il est debout. Paul dit toujours qu'il est assis. Il s'est assis à la droite de Dieu. Bon, les deux sont vrais. À l'époque d'Étienne, le Seigneur était encore debout à la droite de Dieu parce qu'il était prêt de revenir au cas où son peuple juif se repentit. Ils ne sont pas repentis. Alors, il s'est assis. En plus, le fait qu'il est assis à la droite de Dieu montre que son œuvre est accomplie. Les sacrificateurs étaient toujours debout dans le sanctuaire, mais le Seigneur s'est assis, son œuvre est accomplie. Mais deuxièmement, il dit à la droite de Dieu. La main droite, dans l'Écriture, c'est toujours l'image de la force. Dieu agit avec sa main droite. Je crois que c'est dans Exode 15, par exemple, où il dit qu'avec sa main droite, il a ouvert la mer Rouge et il a libéré son peuple. Alors, le Seigneur se tient à la droite de Dieu, ça veut dire qu'il a reçu la place de toute puissance et de toute autorité. Si vous lisez la première prière de Paul dans Éphésiens 1, vous allez trouver justement ça. Cette force indescriptible que Dieu a utilisée envers Christ pour le ressusciter et pour lui donner une place à sa droite, en dessus de toute autorité, comme homme. Cela, on n'a jamais eu un homme dans une telle place d'autorité. Et c'est ce que Étienne voit maintenant. Celui qui a souffert, il est dans le ciel, il est glorifié, il est à la droite de Dieu, il a toute autorité. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, les gens devant lui? Et il rend même témoignage, verset 56, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » J'aime beaucoup ce titre, le Fils de l'homme. Vous savez bien qu'il a deux significations. Il y a d'abord le Fils de l'homme qui a marché sur cette terre, qui n'avait point pour poser sa tête. Les oiseaux ont les nids, les renards ont leur trou, leur maison. Le Seigneur n'avait pas pour reposer sa tête, sauf sur la croix après. Alors c'est le Fils de l'homme dans son humiliation. Mais il y a aussi le Fils de l'homme dont le Seigneur parle devant le Sanhédrin quand il dit « Vous allez voir le Fils de l'homme venant avec les nuées. » Il savait très bien ce que ça voulait dire. C'était une allusion à Daniel 7, le Fils de l'homme qui a reçu le royaume. Et là, ils disent, c'est la blasphémie. Maintenant, il faut le tuer parce qu'il a dit qu'il est ce Fils de l'homme. Alors, Étienne, il voit ce Fils de l'homme, celui qui était ici dans son humiliation, mais celui qui est maintenant glorifié et qui viendra en toute puissance. C'est psaume 8, c'est les deux côtés. Qu'est-ce que c'est le Fils de l'homme? que tu le regardes. Il est tellement petit en comparaison avec la création. Mais après, le même psaume dit, tu mettras ce Fils de l'homme sur toute chose, sur tout l'univers. Alors Étienne, il voit le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Maintenant, on voit la réaction de la foule. Ils crient à haute voix, ils bouchent les oreilles, ils ne veulent plus entendre. Et d'un commun accord, juste une petite note ici, un commun accord, normalement c'est quelque chose de très beau, c'est quelque chose de souhaitable aussi parmi les croyants, mais ce n'est pas une garantie d'être juste, hein, d'être correct. C'est possible d'être d'un commun accord et d'aller complètement dans la mauvaise direction, comme ces gens-ci. Ils se précipitèrent sur lui et l'ayant poussé hors de la ville, ils le lapidaient. Alors, cette lapidation, c'est une forme de punition extrêmement cruelle. Et bien sûr, Étienne savait très bien ce qui l'attendait. Il voyait les gens chercher de grandes pierres. Il les voyait ramassant les pierres. Et Étienne, il sait complètement qu'est-ce qui va arriver maintenant. Alors, s'il n'y a jamais un moment pour paniquer, c'est ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Étienne qui priait. C'est incroyable, non? Il y a un homme complètement calme, complètement en relation avec son Dieu et avec une force et une stabilité qui n'est pas ébranlée, même pas par la lapidation. Et il y a une autre chose qui se passe. Il prie et il dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Remarquez quelque chose, hein? Le Seigneur avait dit, Père, je commets mon esprit à toi, en toi, dans tes mains. Alors, c'est pas pareil, mais il y a une ressemblance. Le Seigneur pouvait donner son esprit à son Père, pour ainsi dire. Il pouvait laisser sa vie. Étienne ne pouvait pas le faire. Mais il peut terminer sa vie en communion avec son Seigneur. Il a appris du Seigneur lui-même sur la croix. Aussi, la deuxième requête, « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Qu'est-ce que le Seigneur a dit? « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je crois que cette similitude, cette ressemblance entre Étienne et le Seigneur est une autre conséquence de son regard en haut. Alors, il a regardé dans le ciel ouvert. Deux choses se sont passées. Premier, calme absolu, pas de panique. Deuxième, il montre les traits moraux de son Seigneur. Alors, la question, et je viens au deuxième point maintenant, que je voulais placer devant vous. La question, c'est si c'est un cas singulier. Est-ce que peut-être Étienne était un homme très, très spécial? Oui, sans doute. Mais l'expérience qu'il a faite, est-ce que c'est réservé à Étienne? Ou est-ce que c'est une expérience qui est ouverte à des croyants dans notre jour? Oui. Alors, j'aimerais juste rapidement montrer quelques versets dans le Nouveau Testament qui nous encouragent d'imiter Étienne, qui nous encouragent de prendre la même perspective. Tout d'abord, Colossiens 3.
C'est un verset avec lequel j'avais toujours un peu de difficulté, je me souviens, longtemps. Colossiens 3, premier verset. « Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est, assis à la droite de Dieu. » Et aussi le verset 2, « Pensez aux choses qui sont en haut. » Alors, je me rappelle bien que, disons, en tant que jeune croyant, quand on a lu un tel verset, je me suis quand même posé la question, mais regardez en haut, considérez les choses en haut, mais qu'est-ce qu'il y a en haut? Oui, il y a le Seigneur, mais combien de temps est-ce qu'on peut passer à réfléchir sur cela? Mais en fait, si on commence à chercher, si vous essayez de suivre cette trace dans le Nouveau Testament, vous allez découvrir une mine après l'autre, un trésor après l'autre. Parce que pratiquement chaque livre du Nouveau Testament nous parle de ce qui est en haut, nous parle du Seigneur Jésus glorifié. Je dois choisir maintenant juste quelques exemples et laisser le reste pour vous. Prenons Philippiens. Premier chapitre. Et verset 21. Philippiens 1, 21. Car pour moi, vivre c'est Christ et mourir un gain. Pourquoi Paul, il pouvait dire cela? Normalement, si vous demandez à une personne, est-ce que vous voulez vivre ou mourir? La réponse est très claire, hein? Ils veulent vivre. Ils donneraient même plus pour ne pas mourir, pas encore. Paul est différent. Il dit, non, j'ai un problème difficile là, je ne peux pas bien prendre cette décision parce que je ne sais pas ce qui est meilleur. Il dit, normalement, ce serait meilleur d'être avec le Seigneur. Mais aussi, peut-être je peux vous être utile. Alors je suis tiré un peu entre les deux, et les deux sont tellement bien que je ne sais pas que préférer. C'est un homme heureux, non? Alors, maintenant, on va lier ce verset avec Étienne. Étienne regarde les gens qui ramassent les pierres. Il voit les pierres qui sont lancées. Et qu'est-ce qu'il pense? Il pense, mais si une pierre me frappe et me tue, je serai là. Il vient juste de voir le Seigneur à la droite de Dieu. Et il se dit, mais si cette pierre me frappe, je serai tout de suite avec lui. Et je montre un deuxième verset, Galates 2, vous connaissez bien, verset 20. Au milieu, je vis maintenant dans la chair, ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Pensez à Étienne. Il voit les pierres, mais il regarde dans le ciel et il dit, cet homme à la droite de Dieu, c'est le Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Je connais son amour, j'ai goûté son amour. Et s'il me tue maintenant, je suis auprès de lui. Je pense que cela nous aide à comprendre la tranquillité d'Étienne, la stabilité d'Étienne.
son calme, sa communion, même dans cette crise, de pouvoir, comme nous avons lu, se mettre à genoux. Il n'essaie pas de s'enfuir, il se met à genoux. Il accepte ce qui se passe maintenant parce qu'il est en relation avec le ciel. Prenons autre chose. Il y a beaucoup, beaucoup à découvrir là, dans le ciel. Hein. Prenons une situation où il y a une vraie difficulté dans une assemblée. Je suis content de pouvoir parler librement parce que je ne vous connais pas. Mais disons, il y a une assemblée où il y a un genre de lutte entre frères qui est plutôt conducteur. Peut-être ça n'existe pas en Belgique. Je l'ai vu à d'autres endroits. Alors, c'est un problème qui peut causer beaucoup de dommages dans une assemblée. Mais qu'est-ce qui se passe quand ces frères arrêtent de se regarder l'un l'autre pour voir qui est le plus grand et ils se mettent à regarder dans le ciel? Je vais lire de Colossiens. Premier chapitre. Verset 18. Et il est chef du corps de l'assemblée, lui qui est le commencement et le premier-né d'entre les morts. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, ces frères qui étaient en train d'être en querelle, ils regardent en haut et ils voient leur chef, la tête du corps. Et ils continuent de lire et ils pensent, ils se rendent compte qu'il est le premier-né d'entre les morts. Il n'a pas besoin d'entrer dans la mort pour être le créateur dont il parle dans le verset précédent. Il l'a fait par sa puissance. Mais pour devenir le chef du corps, il a d'abord dû entrer dans la mort. Et comme premier-né de la mort, il est maintenant le chef dans la gloire. Vous savez ce qui se passe quand les frères regardent en haut? Ils arrêtent leur dispute. C'est bien, notre chef est là. C'est lui qui conduit. Je donne encore deux exemples et je m'arrête. Pensez à des croyants qui sont dans des difficultés. Disons, soit une maladie, soit peut-être l'âge avancé, soit des troubles au travail ou dans la famille. Et qui sont à la fin de leurs ressources et qui disent « Je ne sais pas comment je peux continuer dans ma situation. » Alors, regardez, s'il vous plaît, dans Hébreux. Hébreux 3, premier verset. C'est pourquoi, frères saints, participant à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession, Jésus. Ah. Maintenant, ses amis troublés, ils regardent dans le ciel ouvert et qu'est-ce qu'ils voient? Maintenant, ils voient aussi le Seigneur, mais pas comme chef. Pas comme homme en dessus de tout seulement, mais il le voit aussi comme souverain sacrificateur. Alors, qu'est-ce qu'il fait le souverain sacrificateur? J'aime beaucoup ces trois versets qui utilisent le mot ou l'idée d'être capable en hébreu, en parlant du souverain sacrificateur.
On a d'abord, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui n'est pas capable de sympathiser avec nos faiblesses. Alors, simplement dit, il est capable de sympathiser. Il nous comprend. Il est homme, il est devenu homme. Et il est resté homme. Il est encore homme dans le ciel pour bien sympathiser avec nous. Deuxièmement, il dit, nous avons un souverain sacrificateur qui est capable de secourir. Il est capable de résoudre notre problème. C'est chapitre 2 et 4. Et maintenant, dans le chapitre 7, il dit, nous avons un souverain sacrificateur qui est capable de nous sauver jusqu'à la fin. Sympathiser, secourir et sauver. Je l'explique souvent avec un petit exemple. Si je tombe dans un grand trou, très profond, et je suis là, je peux pas sortir. Et maintenant, il y a un homme qui se montre en haut, là. Et il regarde en bas et il dit, ah, mais pauvre homme, hein, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vraiment la sympathie avec toi. Et une fois, ça m'est arrivé à moi, je te comprends. Alors, je suis déjà content. Mais maintenant, il me dit, mais en fait, je n'ai pas des outils. Je n'ai pas de corde. Je ne peux pas t'aider. Alors, ça ne m'aide pas beaucoup. Et il s'en va. Maintenant, il y a un autre qui arrive, qui se monte là-haut et qui dit, il est tout équipé. Hein. Il a les cordes, une échelle, il a tout ce que vous voulez. Mais il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es fou. Pourquoi tu es arrivé dans cette situation? Tu aurais pu prendre un autre chemin. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? C'est un homme qui peut secourir, mais il ne peut pas sympathiser. Mais le Seigneur, il fait les deux. Il a la sympathie avec nos circonstances, avec nous dans nos circonstances, et il a les ressources pour nous secourir. C'est aussi quelque chose que nous voyons dans le ciel. Nous pouvons, par exemple, si on veut regarder un peu plus loin, on peut étudier Exode 28 et étudier les vêtements du souverain sacrificateur. Et à chaque reprise, on découvre quelque chose de ce que fait ce souverain sacrificateur pour nous. Ça fait partie aussi de cette vue dans le ciel. Dernier exemple. Peut-être je le prends, on prend un exemple des évangiles. Jean 14, Jean 14, premier verset, que votre cœur ne soit pas troublé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit. Car je vais vous préparer une place. Verset 3. Et si je m'en vais et que je prépare une place, je viendrai. Et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi. Il y a des versets dans la Bible qui tirent une conclusion qui, à première fois, n'est pas apparente pour nous. Et ce verset 3, pour moi, en fait partie. Parce que le Seigneur, d'abord, il constate qu'il a son Père. Dans la maison de son Père, il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de places pour tous. Et il y a des demeures. Cela ne veut pas dire qu'on a chacun un appartement séparé. Cela veut dire que c'est un endroit pour demeurer. On n'a plus besoin de déménager. Hein. On peut rester. final, c'est final. Mais maintenant, le Seigneur, il tire cette conclusion. Il dit, mais si je vais là, forcément, je reviendrai pour vous prendre. Est-ce que c'est logique? Est-ce que je peux dire, disons, si je pars maintenant en Allemagne, forcément, je reviendrai? Ben non. Oui, peut-être oui. Mais ce n'est pas une conclusion. Ce n'est pas nécessairement vrai. Mais le Seigneur dit non, c'est nécessairement vrai. Pourquoi? Parce que nous sommes liés avec lui tellement étroitement qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Le Seigneur dit, mais c'est clair. Si vous êtes ici et moi je m'en vais, il n'y a pas d'autre possibilité que je revienne pour vous prendre aussi, que vous soyez avec moi. Alors c'est aussi quelque chose qu'on voit quand on regarde dans le ciel. On voit le Fils de l'homme à la droite de Dieu, oui. Mais on sait, un jour, il va se lever pour venir et pour nous chercher. Et cela pourrait être à chaque moment. Il n'y a aucun événement à attendre avant cela. Beaucoup de gens nous écrivent pour demander si le vaccin est le signe de la bête. Et je leur dis toujours, Apocalypse 4, suivant et futur, et avenir, c'est après l'enlèvement. On n'est pas dans la tribulation, mais on ne sera pas dans la tribulation. On n'attend pas l'Antichrist, on fait ce que faisaient les Thessaloniciens, des jeunes convertis depuis quelques mois. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'étaient convertis des idoles pour servir le Dieu vivant et attendre son Fils du ciel. C'est très clair, hein? C'est ce que nous attendons, celui que nous attendons. Alors, même notre espérance est liée avec ce regard dans le ciel ouvert. Il y a celui qui nous a aimés, qui s'est livré pour nous. Il y a celui qui nous soutient dans nos difficultés. Il y a celui qui va venir pour nous prendre. Et je vous promets, je m'arrête maintenant, mais je m'arrête avec cette remarque que ce que nous avons regardé, en allemand, on dit c'est seulement le sommet de la montagne iceberg. Oui. La pointe, merci. On a juste vu un petit peu. Et j'espère que c'est un encouragement pour nous tous de chercher plus dans le Nouveau Testament pour voir ce panorama de trésors qui s'ouvre une fois qu'on ose ce regard d'Étienne, ce regard dans le ciel.